Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est l'instant M qui démarre.
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
Hier, à 11h10, à la rédaction du site d'information Mediapart à Paris, dans le 11e arrondissement, se présentent deux procureurs accompagnés de trois policiers. Ils vont perquisitionner les locaux du média en ligne dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet pour atteinte à la vie privée d'Alexandre Benalla, l'ex-homme de confiance du président de la République. Mediapart a en effet diffusé un enregistrement dans lequel on entend le garde du corps se prévaloir de la confiance d'Emmanuel Macron après sa mise en examen cet été. Hier, Mediapart, c'est inédit, a refusé l'accès de ses bureaux au procureur, dénonçant une atteinte au secret des sources. Alors, pour comprendre, le média a-t-il dans cette affaire la loi pour ou contre lui ?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et on vous promet force pédagogie dans ce dossier. Bonjour Fabrice Arfi.
Bonjour.
Vous êtes co-responsable du pôle enquête de Mediapart et vous étiez présent, physiquement présent dans les locaux quand
les procureurs et les policiers, dont un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle, excusez du peu, a débarqué à 11h10 à la quasi-fin de la conférence de rédaction du lundi de Mediapart.
Pourquoi on fait venir la brigade criminelle pour perquisitionner les locaux?
C'est une très bonne question. Sauf à vouloir criminaliser le journalisme, considéré que nous sommes dans une affaire de barbouzerie qui nécessite la brigade criminelle et que les enregistrements seraient un objet criminel. En tout cas, l'effet de sens est très bavard, je trouve, sur ce qui s'est passé. Donc oui, moi j'ai eu à traiter personnellement avec les procureurs et les policiers leur dire leurs faits et surtout le droit de refuser cette perquisition.
Bon, alors on a plein de questions à vous poser et vous plein de choses à nous expliquer, mais tout de suite c'est la fenêtre de la porte que nous ouvrons chaque mardi dans l'instant M. Bonjour Xavier Delaporte.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Alors ce matin,
il est d'usage, vous le savez, de considérer que débattre dans Internet, c'est horrible. Les gens s'insultent, n'argumentent pas, mais disqualifient l'opinion adverse, règnent les trolls qui pourrissent la discussion, les fabricants de fake news, les extrémistes de tout poil, bref, rien de bon n'en sortirait. Partant de ce constat, est né il y a un an un site du nom de Kialo qui a pour ambition d'organiser une conversation sereine, argumentée et raisonnable. Alors, les grands principes de Kialo, c'est un sujet qui est soumis par quelqu'un sous forme d'une question, par exemple, faut-il limiter la liberté d'expression ? Les arguments sont divisés en deux colonnes sur l'écran, pour, contre, les arguments arrivant en tête étant ceux qui sont les mieux notés. Ça, c'est pour éviter le côté linéaire, vous savez, des fils de discussion, où les gens se répondent les uns à la suite des autres, où les arguments et contre-arguments s'enchevêtrent, et où il faut remonter au tout début pour comprendre. Pas de ça sur Kialo, tout est clair. Par ailleurs, si vous cliquez sur un argument, vous entrez dans une sous-discussion. Par exemple, si quelqu'un dit « il ne faut pas limiter la liberté d'expression parce que c'est un droit fondamental », et bien vous cliquez, vous entrez dans une discussion pour savoir si un droit fondamental doit être absolu avec des nouveaux arguments pour, contre. Autre chose importante, il existe un système de modération qui empêche les trolls, les arguments complètement infondés et essentiel, ces arguments sont anonymes. Les propos priment sur la personne qui les exprime. Alors en se baladant sur le site, on constate que les sujets de discussion sont variés. On y parle de la dernière pub Gillette sur la masculinité toxique ou du Brexit et que la promesse du site est respectée. On a l'impression d'entrer dans un paradis de la conversation où règne la sérénité, la raison et la politesse. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Après une heure passée à déambuler dans cet Éden de la raison, on n'a qu'une envie, c'est retourner dans le bordel habituel sur Twitter, Facebook, Reddit ou n'importe quel lieu du web où on discute. C'est pas simplement qu'on s'emmerde d'ailleurs sur Kialo, mais c'est aussi problématique. Pourquoi ? D'abord parce qu'une discussion ne se résume pas à l'exposé plat d'arguments pour-contre. Une vraie discussion est une question d'enchaînement, de reformulation, d'endurance aussi. Oui. Par ailleurs, le design de Kialo fait que personne ne peut l'emporter. Se limiter à des colonnes pour contre, c'est un peu comme faire monter deux boxeurs sur un ring, énumérer leurs qualités, sans jamais les faire combattre. Ensuite, dans une discussion, on aime savoir qui parle. Par l'anonymat, Kialo suggère qu'un argument a le même sens selon celui ou celle qui l'exprime. Or, ça n'est pas vrai. La liberté d'expression n'est pas forcément la même quand elle est défendue par Dieudonné ou par un opposant politique dans une dictature. C'est juste deux exemples. Je vois deux illusions se manifester dans l'initiative de Kialo, mais en fait, on a connu d'autres initiatives du même type et il y en aura sans doute d'autres qui apparaîtront. La première illusion, c'est qu'on se ferait une idée plus claire sur les grandes controverses en éliminant la mauvaise foi, l'invective, les obsessionnels ou ceux qui disent n'importe quoi. Tout ça fait partie de la discussion, qu'on le veuille ou non. La seconde illusion, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme. C'est une sorte d'idéologie de la très Silicon Valley qui considère qu'on peut régler les problèmes, tous les problèmes, par la technologie. Comme s'il suffisait de modifier le design et les fonctionnalités pour élever le débat. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Bref, pour de mauvaises et de bonnes raisons, on peut avancer sans trop de risques qu'on va continuer encore longtemps à s'engueuler sur Internet, comme on l'a toujours fait dans la rue d'ailleurs, dans les cafés et dans les dîners.
Voilà, un nostalgique des trolls. On aura tout entendu au micro de l'Instant M. Merci beaucoup Xavier Delaporte. Et la fenêtre de la porte, vous pouvez l'ouvrir et la réouvrir sans fin sur franceinter.fr.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors cet enregistrement a été diffusé le 31 janvier dernier par Mediapart. Vous allez y entendre Alexandre Benalla et Vincent Crase, qui est son associé en affaires, responsable de la sécurité à En Marche, après leur mise en examen pour violence en réunion en marche de la manif du 1er mai.
Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il dit, tu vas aller bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi.
Donc le patron nous soutient?
Ah bah il fait plus que nous soutenir. Il a dit, je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter, enfin je peux lui porter par les mains en l'occurrence, sur, que je peux lui porter sur machin. Il l'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice, elle fera son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., il est comme un fou. Même si tu allais bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est énorme.
Cet échange a eu lieu le 26 juillet, c'est cela, Fabrice Arfi?
Absolument.
Voilà, vous êtes
co-responsable
du pôle enquête de Mediapart. Hier, donc, on l'a dit, deux procureurs, trois policiers arrivent chez vous à vos bureaux. Vous êtes même vous-même physiquement présent et vous refusez la perquisition. Et là, la France découvre qu'on peut refuser une perquisition alors que dans un feuilleton policier, on ne refuse jamais une perquisition. Pourquoi vous avez pu refuser cette perquisition?
Alors, d'abord, on a été extrêmement surpris de voir la maréchaussée débarquer, comme j'ai dit tout à l'heure, emmenée par un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle.
En petit effectif néanmoins. Hein.
Trois policiers et deux procureurs du parquet de Paris qui se présentent à moi sur le seuil de la porte et pour dire, monsieur, c'est une visite domiciliaire. En d'autres termes, dit le procureur, c'est une perquisition. Et donc, nous nous sommes réunis dans une pièce adjacente de réunion au journal et comme nous sommes dans un cadre d'enquête très particulier, à savoir une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Paris il y a très peu pour plusieurs délits potentiels, notamment l'atteinte à l'intimité de la vie privée. Alors, on ne sait pas de quelle vie privée nous parlons, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Vous saviez qu'une enquête avait été ouverte?
Non, c'est eux qui annoncent qu'une enquête a
donc
été...
Donc, vous ne saviez même pas qu'une enquête était ouverte?
Non.
D'accord.
Non, et donc, ils me donnent plusieurs délits visés par leur enquête préliminaire. Il y a l'atteinte à l'intimité de la vie privée, parce qu'il y a des enregistrements clandestins. Il y a un article du Code pénal qui s'appelle l'article 226-2 du Code pénal qui vise la diffusion des enregistrements. Donc, c'est Mediapart qui est visé. De toute
Bien
façon,
sûr.
Quand on veut perquisitionner un lieu, c'est que le lieu et ceux qui y sont visés. Et d'autres délits qui concernent les circonstances de la captation. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'un appartement aurait été sonorisé? Est-ce que, je sais pas, il y a eu des écoutes téléphoniques illégales? Enfin, voilà. C'est
hier,
un peu ça le cadre de l'enquête.
Vous découvrez que cette enquête a été ouverte. Vous ne le saviez pas. Et comme c'est une enquête préliminaire.
Voilà. Et qu'ils viennent sans le mandat d'un juge des libertés. De la détention, un JLD, ils ont tenté un coup de force, mais le droit nous autorise à refuser la perquisition. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, il peut y avoir une perquisition, dans le cas d'école d'hier, à condition qu'il y ait un accord préalable de la personne visée. Évidemment, puisqu'il y a un risque manifeste, pour ne pas dire énorme, de violation du secret des sources quand des policiers et des magistrats vont rentrer pour chercher des documents dans une rédaction, j'ai refusé, et je l'ai refusé fermement, avec Michael Hagenberg, qui était avec moi, qui est le co-responsable des enquêtes à Mediapart, la perquisition. Ce sur quoi le procureur de la République de Paris, enfin le procureur adjoint qui était présent, nous a fait savoir qu'il n'excluait pas de revenir dans la journée au plus tard, cette fois avec un mandat
du juge. Donc
qui,
là, vous seriez obligé d'ouvrir vos portes et d'ouvrir vos bureaux.
Voilà, qui rendrait contraignante et coercitive la perquisition, ce qui en dit long sur l'état d'esprit qui était ceux de l'autorité judiciaire qui est venu hier. Ils voulaient, en tout cas, ils n'ont pas exclu, je reste prudent, mais ils n'ont pas exclu qu'ils rentrent par la force, entre guillemets, par la contrainte. Ils ont tenté la surprise hier, ils n'ont pas exclu la contrainte pour perquisitionner une rédaction qui ne fait dans cette affaire que son travail.
Alors, qu'on comprenne bien, vous, on vous a demandé de transmettre les bandes, les enregistrements, où on entend la voix d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, qu'on vient de vous faire écouter. On vous a demandé de les transmettre. Et vous avez accepté de les remettre, ces bandes. Donc, qu'on comprenne bien la différence entre avoir ces bandes, pouvoir les écouter, comprendre ce qui s'y passe, etc., et venir les chercher chez vous, c'est venir chercher autre chose que
bien,
les bandes.
Mais bien sûr, c'est d'abord une mise en danger des sources, et j'ai bien conscience qu'il y a un carambolage de procédures,
oui.
Parce qu'il faut bien comprendre les choses. Nous avons fait ces révélations le 31 janvier dernier, c'était jeudi dernier, qui ne concernent pas que le sentiment d'impunité et la protection de l'Élysée de M. Benalla. L'enregistrement prouve que M. Benalla et Kras violent leur contrôle judiciaire qui est assorti de leur mise en examen dans l'affaire du 1er mai. Donc ce qu'ils risquent avec cette révélation, premièrement, c'est la détention provisoire. Ils ont violé leur contrôle judiciaire. Ce que nous révélons par ailleurs, c'est qu'ils réfléchissent à comment détruire des preuves, comment faire le ménage avant des perquisitions. Et ce que nous révélons, et ce qui est le plus grave dans cette affaire, qui donne, et j'assume les mots, les atours d'une affaire d'État, c'est que Alexandre Benalla, contrairement à ce qu'il a dit au Sénat, est impliqué, y compris financièrement, dans un contrat sécuritaire pendant qu'il était à l'Élysée, avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, qui, d'après plusieurs magistrats européens, est lié au pire groupe criminel moscovite. C'est une affaire d'État de compromission potentielle des secrets de l'État, et une affaire financière gigantesque d'un homme que des magistrats, notamment en Espagne, soupçonnent de blanchir l'argent de la mafia et qui a beaucoup d'intérêt en France. Et voilà qu'un homme, Alexandre Benalla, qui est dépositaire par fonction des secrets de la présidence de la République, il est habilité au secret défense, fait affaire avec cet oligarque pendant qu'il est à la présidence de la République, main dans la main avec le même Vincent Kras, qui est responsable de la sécurité du parti présidentiel. Voilà ce que nous révélons.
La semaine dernière.
Voilà, nous révélons ça la semaine dernière. Et dès le vendredi, nous avons ce qu'on appelle une réquisition. Ça n'est pas une perquisition, c'est une réquisition écrite, c'est une demande formulée par les policiers à la demande des juges d'instruction indépendants dans le cadre de l'affaire du 1er mai, qui nous demandent si on peut leur fournir les extraits que
et
nous
vous
avons
vous
rendus
publics.
Oui, nous acceptons toujours, en fait. Et ils veulent les extraits pour pouvoir documenter un fait précis. C'est la violation du contrôle judiciaire. Parce que je pense que les juges peuvent être, à raison, très énervés de constater que ceux qui n'ont pas le droit de se rencontrer, messieurs Benalla et Kras, se rencontrent secrètement pour comploter contre la justice et détruire des preuves dans l'affaire du contrat russe. La politique de Mediapart depuis 11 ans, c'est que nous donnons toujours aux services enquêteurs ce que nos lecteurs connaissent déjà. Nous n'avons aucune raison de faire entrave à la marche des enquêtes judiciaires à condition que nous donnions ce qui est déjà public, à savoir les extraits des enregistrements que nous avions révélés. Nous ne donnons pas plus pour ne pas se transformer en informateur de la police. Et donc, il se trouve que hier matin, moi, j'ai répondu au commandant de police en disant, bien sûr, il faut qu'on trouve un rendez-vous, un moment pour que nous vous passions les éléments, et même un élément supplémentaire qui va permettre de documenter de manière définitive que ça s'est bien passé le 26 juillet, c'est-à-dire postérieurement à leur mise en examen. Et deux heures plus tard, débarque la maréchaussée, ce qu'on racontait tout à l'heure, dans le cadre d'une autre enquête, d'une enquête parallèle, qui a été ouverte en catastrophe, non pas sur le fond des faits, qui sont quand même extrêmement graves, je viens de le dire, et le contraste est sidérant, sur l'atteinte à la vie privée et sur les circonstances de l'enregistrement. Et le problème, ce serait Mediapart, puisque c'est Mediapart qu'on veut perquisitionner. Ce serait notamment la diffusion de ces enregistrements. Alors, de quelle vie privée parlons-nous? Les deux seules personnes qu'on entend les enregistrements, c'est messieurs Benalla et Kras. Le parquet
Kras.
De Paris a fait savoir hier soir à quelques journalistes que ça n'était pas la vie privée de monsieur Benalla et de monsieur Kras dont nous parlons. Mais qui alors? Ils disent qu'il n'y a pas de plainte à l'origine, hein, parce que ce qu'il faut comprendre en droit, c'est que le parquet ne peut pas ouvrir une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée s'il n'y a pas quelqu'un qui s'estime atteint dans sa vie privée. Le parquet ne peut pas se substituer à une personne privée dans ce délit-là. C'est le même délit dans la diffamation. Le parquet ne peut pas se substituer. Il n'y a pas de plainte, ils disent il y a un signalement. Mais un signalement de qui, de quoi, comment, où, on ne sait pas. C'est un signalement fantôme. Et sur la foi d'un signalement fantôme, d'une personne qu'on n'entend pas dans l'enregistrement, ni de près, ni de loin, on ouvre une enquête et la première décision, c'est de venir perquisitionner avec la brigade criminelle Mediapart. Nous sommes dans une situation...
Est-ce que vous mettez en cause aujourd'hui le nouveau procureur de Paris, Rémy Heitz, puisque au moment de sa nomination au mois de juillet, il y avait eu polémique, il y avait même eu communiqué du syndicat de la magistrature en disant il faut que cela cesse, il faut que le garde des Sceaux n'ait plus le pouvoir de proposer des magistrats à ce poste de procureur de Paris, puisque on sait très bien que ça va être une nomination politique et que ce même procureur de Paris va être amené à juger des affaires sensibles qui concernent des proches de l'Élysée. C'est exactement ce qui est en train de se passer.
Mais en fait, moi, vous savez, je suis un factualiste, donc j'aime les faits. Et les faits, quels sont-ils concernant M. Rémy Heitz, procureur de la République de Paris? c'est que avant qu'il soit nommé, ça devait pas être lui. En fait, la ministre de la Justice, Matignon et le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire la corporation des magistrats, avaient proposé trois noms. Les trois noms avaient été validés par le garde des Sceaux et par Matignon. Et ça a été rayé d'un trait de plume comme un fait du prince par Emmanuel Macron en personne, qui a choisi son procureur. Pensez donc qu'il y a quand même
Et on a réorganisé un deuxième appel à candidature.
On a fait un deuxième tour.
D'où la polémique.
On a fait un deuxième tour pour satisfaire les besoins du président de la République, qui ne voulait pas les procureurs qui ont été choisis par son propre gouvernement, mais qui voulait le sien. Sachant qu'il faut comprendre, que les auditeurs comprennent, que le procureur de la République en France est un procureur qui est soumis hiérarchiquement et statutairement au pouvoir exécutif.
Oui, oui.
C'est ce qui fait dire à la Cour européenne des droits de l'homme que les procureurs ne peuvent pas être considérés comme des magistrats, des vrais magistrats, parce qu'ils ne sont pas indépendants du pouvoir. Vous savez, hein, la séparation des pouvoirs.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez en cause le procureur de Paris dans ce qui s'est passé
hier? Moi, je
ne
veux pas faire de syllogisme, ou de parallélisme des formes, mais on ne peut que constater que celui qui aujourd'hui a tenté de perquisitionner dans une enquête qui incrimine le matériau qui révèle des délits et le journal qui les révèle, c'est eux qu'on veut perquisitionner. C'est nous qu'on met en cause. Donc je ne peux constater que ça et sincèrement m'en désoler.
Alors hier, c'était une journée bien particulière pour la rédaction de Mediapart, puisque au moment où ces deux procureurs et les trois policiers arrivent à vos bureaux, votre cofondateur Edoui Plenel était absent de la rédaction. Il était en train de déposer devant la 17e chambre du tribunal de Paris dans le cadre d'un procès en diffamation. Je rappelle l'objet de ce procès, c'est l'affaire Denis Baupin, harcèlement sexuel dans le parti des Verts. Plusieurs femmes avaient témoigné en 2016 lors des enquêtes menées et par Mediapart et par nous, France Inter.
Cyril Graziani.
Voilà, Cyril Graziani. Les faits ont été prescrits. Néanmoins, à ce moment-là, le parquet avait quand même conclu que certains auraient pu être pénalement qualifiés. Il n'empêche, Denis Baupin, aujourd'hui, attaque en diffamation les femmes qui ont témoigné, mais également Mediapart, mais également France Inter. Tout ça s'est passé au même moment. Au moment où les procureurs arrivaient, Edoui Plenel était en train de témoigner à la 17e chambre de Paris.
Avec une scène cocasse, puisqu'il apprend la perquisition et il dit, Monsieur le Président, il y a une perquisition en cours dans les locaux de Mediapart, et le Président, stupéfait de cette information, lui dit, Monsieur Plenel, je vous laisse vaquer à vos occupations.
Ah oui,
oui, c'est la scène de genre quasiment qui s'est passée hier, donc c'est vrai qu'il y a un carambolage de calendrier et d'événements, mais ce que vous racontez est très important, c'est la preuve que nous ne sommes pas au-dessus des lois. Que Mediapart, évidemment que nous avons à répondre devant la loi de nos écrits. Alors là, on est un peu à front renversé dans le mouvement MeToo. C'est-à-dire que nous révélons une affaire sur la foi d'une quinzaine de témoignages documentés avec France Inter, Mediapart. Le parquet de Paris fait une enquête, clôt l'enquête, classe sans suite, non pas parce que les faits n'ont pas eu lieu. Au contraire, ils disent les faits ont eu lieu, mais ils sont prescrits. Mm-hmm. Donc comme ils sont prescrits, en droit, ça veut dire qu'on ne peut pas les poursuivre. Mais c'est pas parce qu'on peut pas les poursuivre qu'ils n'ont pas existé. Et sur la foi de ce seul classement sans suite, Monsieur Baupin croit pouvoir attaquer Mediapart, Léanick Bredoux, chez nous, qui avait fait l'enquête, avec un avocat, Maître Pierrat, qui l'a insulté hier à la barre, qui a insulté notre journaliste, en la traitant de mormone en chef de la tribu, hein, qui est d'une violence inouïe. Ça en dit quand même très long sur le mouvement MeToo et le peu de pédagogie que ça a eu chez certaines hommes, et qui en est à mettre en cause aujourd'hui la parole de 14 femmes qui ne sont pas 14 éléments divers d'un même complot contre M. Baupin. Nous n'avons fait que ce travail dans cette affaire. Et donc, bien sûr, le procès va continuer, il reprend aujourd'hui, et c'est normal que nous ayons à répondre de nos écrits devant la loi, même si là, nous sommes encore une fois dans une espèce d'histoire judiciaire à front renversé dans l'affaire Baupin. M. Baupin qui n'a pas cru bon venir au tribunal.
Hein. Non,
il est absent du procès.
Que ça n'est pas son procès, mais le vôtre. Bah, à suivre, donc, la suite, les suites du procès, les suites de l'affaire Baupin et les suites de l'affaire Benalla. Merci beaucoup Fabrice Arfi d'être venu dans l'Instant M ce matin. C'est la fin de l'émission et c'est bientôt la fin du monde chez Ali Rebéi.
Exactement, on va parler de l'effondrement avec le chercheur indépendant Pablo Servigne. L'effondrement, c'est ce moment où les services de base comme l'eau, l'alimentation, la mobilité, etc. Ne pourront plus être assurés à une majorité de la population. Et on va vous aider à affronter psychologiquement cet effondrement qui est là et qui va se poursuivre. 01 45 24 7000.
Secours.